Chapitre 2. L'histoire d'Ivan Ilitch était des plus simples, des plus ordinaires, des plus tristes. Ivan Ilitch était mort à 45 ans, conseiller à la cour d'appel. Il était fils d'un fonctionnaire qui avait fait sa carrière à Pétersbourg, dans différents ministères, et avait occupé une de ces situations qui prouvent clairement que ceux qui les détiennent seraient incapables de remplir un emploi sérieux. Néanmoins, comme on ne peut les chasser à cause de leurs longues années de service et de leur grade, ils reçoivent des sinécures créées exprès pour eux, auxquelles sont attachés des traitements nullement fictifs, variant de 6 à 10 000 roubles, et qu'ils touchent jusque dans l'extrême vieillesse. Tel était le conseiller privé Ilia Efimovitch Golovin, membre inutile de différentes administrations inutiles. Il avait eu 3 fils. Ivan Ilitch était le second. L'aîné avait suivi la même carrière que son père, mais dans un autre ministère et approchait déjà de l'âge où les fonctionnaires commencent à recevoir des appointements par la seule force d'inertie. Le troisième fils était un raté. Il n'avait su se maintenir dans les divers emplois qu'il avait obtenus, et maintenant il était employé au chemin de fer. Son père, ses frères et surtout ses belles-sœurs non seulement n'aimaient pas se rencontrer avec lui, mais sans une nécessité extrême, on ne se rappelait pas son existence. La sœur avait épousé le baron Greff, fonctionnaire à Pétersbourg, comme son beau-frère, mais le phénix de la famille, comme on dit, c'était Ivan Ilitch. Il était moins froid, moins méticuleux que l'aîné, moins impulsif que le cadet. Il tenait le juste milieu entre ses deux frères. C'était un homme intelligent, vif, charmant, poli. Il avait fait ses études avec son frère cadet à l'école de droit. Mais le cadet n'avait pas fini ses classes. Il avait été exclu dès la 5e, tandis qu'Ivan Ilitch avait terminé brillamment ses études. Encore à l'école de droit, il s'était montré tel qu'il demeura toute sa vie, intelligent, gai, bon garçon, de relations agréables, mais strict dans l'accomplissement de ce qu'il considérait comme son devoir. Et le devoir était pour lui ce que ses supérieurs hiérarchiques déclaraient tels. Il n'était point d'un naturel obséquieux, mais dès sa première enfance et plus tard, il se portait vers les personnages haut placés, comme la mouche vers la lumière, et ils s'assimilaient leurs manières, leurs vues, et s'insinuaient dans leur intimité. Les entraînements d'enfants et de jeunes hommes ne laissèrent pas de traces profondes dans sa vie. Il sacrifiait cependant à la sensualité, à la vanité, et vers la fin de ses études, au courant libéral, mais tout cela dans des limites qui prouvaient l'équilibre de sa nature. Étant à l'école de droit, il avait commis des actes qui lui avaient alors paru indignes et lui avaient inspiré à ce moment-là le plus profond mépris pour soi-même. Mais s'étant aperçu depuis que les mêmes actes étaient commis par des gens haut placés qui ne les tenaient point pour mauvais, il ne les reconnut pas comme bons, mais il les oublia complètement et leur souvenir ne l'attristait plus. Ses études terminées avec le grade de la 10e classe, Ivan Ilitch reçut de son père de l'argent pour son uniforme, se fit habiller chez Charmer, suspendit en breloque la petite médaille portant l'inscription « Respice finem », fit ses adieux au prince, protecteur de l'école et au directeur, dîna avec ses camarades chez Donon et, muni de malles, de linge, d'habits à la mode, de rasoirs et autres objets de toilette, ainsi que d'un plaid, le tout acheté ou commandé dans un magasin à la mode, il partit pour la province en qualité de fonctionnaire en mission extraordinaire auprès du gouverneur, place que lui procura son père. En province, Ivan Ilitch sut se ménager une situation aussi agréable et facile qu'à l'école de droit. Il s'acquittait de ses fonctions, se poussait dans sa carrière et en même temps s'amusait convenablement, doucement. De temps en temps, ses chefs l'envoyaient en mission dans des districts. Il se tirait d'affaire avec dignité, aussi bien envers les supérieurs qu'envers les subordonnés. Et il remplissait ses missions, notamment celles qui lui furent confiées au sujet des schismatiques, avec une ponctualité et une honnêteté scrupuleuse dont lui-même était fier. Dans son service, malgré son jeune âge et son caractère, il savait être froid, officiel et même sévère. Mais en société, il était souvent jovial, spirituel et toujours convenable et bon enfant, comme disait son chef et la femme de son chef chez qui il était reçu en familier. Il eut même une liaison avec une dame qui s'était jetée au cou de cet excellent magistrat. Il y eut aussi certaines modistes dans sa vie et des orgies avec les aides de camp de passage et des parties de plaisir dans une rue éloignée après le souper. Il eut aussi le désir de flatter son chef et même la femme de son chef, mais tout cela gardait un tel cachet de convenance qu'on ne pouvait le qualifier d'un terme sévère, et de tout cela on se contentait seulement de dire, employant l'expression française, « il faut que jeunesse se passe ». Tout se passait avec des mains blanches, du linge propre, des phrases françaises et surtout, dans la meilleure société, par conséquent avec l'approbation des grands personnages. Ivan Ilitch servit ainsi 5 ans, puis il eut son changement. L'institution des tribunaux nouveaux nécessitait des hommes nouveaux. Ivan Ilitch devint un des hommes nouveaux. On lui offrit une place de juge d'instruction. Il l'accepta, bien que cela l'obligea de quitter son ancienne résidence et les relations qu'il s'était faites là, et de s'en créer de nouvelles. Ses amis l'accompagnèrent. On prit un groupe photographique, on lui fit cadeau d'un porte-cigare en argent, et il rejoignit son nouveau poste. Ivan Ilitch fut un juge d'instruction non point comme il faut, non moins habile à séparer les devoirs de sa charge d'avec sa vie privée, et sut inspirer à tous un respect égal à celui qu'il avait su s'acquérir précédemment. Quant à sa nouvelle situation, il la trouvait beaucoup plus intéressante et attrayante que l'ancienne. Dans son service d'autrefois, il éprouvait un certain plaisir à passer d'un pas léger dans son uniforme de chez Charmeur, devant les solliciteurs et les fonctionnaires qui attendaient l'heure de l'audience et qui lui enviaient le privilège d'entrer librement dans le cabinet de son chef, de boire le thé et de fumer avec lui. Mais le nombre des personnes qui dépendaient directement de son bon vouloir était très restreint. C'étaient des commissaires de police et, quand il allait en mission, des schismatiques. Il traitait poliment, presque en camarades, ces pauvres diables qui dépendaient de lui, aimant à leur faire sentir que lui, qui était tout puissant sur eux, les traitait avec douceur et bienveillance. Mais ces gens étaient peu nombreux. Maintenant qu'il était juge d'instruction, Ivan Ilitch sentait que tous, sans exception, même les plus grands personnages, les plus importants, les plus orgueilleux, dépendaient de son bon vouloir. Il lui suffisait d'écrire quelques mots sur un certain papier en tête pour que l'homme le plus orgueilleux, le plus important, fut amené chez lui comme accusé ou témoin, obligé de se tenir debout, à moins que lui-même ne le fasse asseoir, et de répondre à toutes ses questions. Ivan Ilitch n'abusait jamais de ce pouvoir. Il tâchait au contraire d'en adoucir l'usage, mais la conscience de ce pouvoir et la possibilité de l'atténuer constituaient précisément l'intérêt et l'attrait particulier de sa nouvelle fonction. Quant au service lui-même, notamment les instructions, Ivan Ilitch acquit très vite l'art d'en écarter toutes les circonstances étrangères et de donner à l'affaire même la plus compliquée la forme sous laquelle cette affaire devait être présentée sur le papier et dont sa personnalité était totalement exclue, s'attachant principalement à ce que les formes exigées par la loi fussent observées. C'était là quelque chose de tout nouveau. Il fut l'un des premiers qui mirent en pratique le code de 1864. Dans sa nouvelle résidence, Ivan Ilitch fit de nouvelles connaissances. Il se fit de nouveaux amis et changea de ton. Il se tint à une distance respectueuse des autorités provinciales et se créa des relations choisies parmi les magistrats, les gentilshommes riches de l'endroit. Il prit un léger ton d'opposition contre le gouvernement et affecta les dehors d'un libéral modéré, d'un citoyen austère. Mais Ivan Ivanitch ne changea rien à l'élégance de sa mise. Il cessa seulement de se raser le menton et laissa pousser toute sa barbe. La vie d'Ivan Ilitch s'écoulait très agréablement. Les membres de la société frondeuse qu'il avait accueillie étaient étroitement unis entre eux. Il touchait un plus gros traitement, et parmi les distractions nouvelles, il apprécia surtout le whist, qu'il jouait avec finesse et sang-froid, de sorte qu'il gagnait toujours. Il était depuis 2 ans dans sa nouvelle résidence, lorsqu'il rencontra celle qui devait devenir sa femme, Praskovi Fedorovna. Mikhail était la jeune fille la plus attrayante et la plus spirituelle de la société à laquelle appartenait Ivan Ilitch. Parmi les plaisirs qu'il s'était créés pour se reposer de son travail de juge d'instruction, le plus grand était la camaraderie enjouée qui se forma entre lui et Praskovi Fedorovna. Du temps qu'il était fonctionnaire en mission extraordinaire, Ivan Ilitch était un danseur enragé. Juge d'instruction, il ne dansa guère, et seulement pour montrer qu'il y excellait, tout magistrat de 5e classe qu'il fût. Parfois, il dansait vers la fin de la soirée avec Praskovi Fedorovna, et c'est précisément ainsi qu'il fit sa conquête. Elle devint amoureuse de lui. Ivan Ilitch n'avait jamais pensé sérieusement au mariage. Mais lorsqu'il vit que la jeune fille l'aimait, il se dit « Pourquoi ne me marierai-je pas ?» Praskovi Fedorovna était de bonne famille, noble, et son physique était agréable. En outre, elle possédait une petite fortune. Ivan Ilitch pouvait trouver un parti plus brillant, mais celui-là était fort acceptable. Il avait ses appointements et il espérait que sa femme lui apporterait des rentes équivalentes. Elle était bien apparentée, charmante, jolie et tout à fait comme il faut. Il serait tout aussi inexact de dire qu'il se maria par amour et qu'il avait trouvé en sa fiancée des goûts absolument conformes aux siens, que d'avancer qu'il l'avait épousée uniquement parce que dans son monde, ce mariage était bien vu. Non, Ivan Ivanovitch se décida pour 2 raisons. En la prenant pour femme, il se faisait plaisir à lui-même, et en même temps, il agissait d'une manière qu'approuvaient les gens haut placés. Et Ivan Ilitch se maria. Pendant les fêtes du mariage et les premiers jours qui suivirent, grâce aux tendresses de sa femme, aux nouveaux meubles, à la vaisselle nouvelle et au linge nouveau, tout alla très bien. De sorte qu'Ivan Ilitch commençait à croire que le mariage, loin de troubler sa vie agréable, joyeuse, facile, toujours convenable et approuvée par son monde, ne ferait que la rendre plus agréable encore. Mais dès les premiers mois de la grossesse de sa femme, il survint quelque chose de nouveau, d'inattendu, de désagréable, de pénible, d'inconvenant même, quelque chose à quoi l'on ne pouvait s'attendre et qu'on ne pouvait éviter. Sa femme, sans aucune raison de gaieté de cœur, comme se le disait Ivan Ilitch, se mit à troubler l'harmonie et la tranquillité de sa vie. Elle se montrait jalouse sans aucun motif, exigeait de lui des prévenances continuelles, lui cherchait des querelles à tout propos et lui faisait des scènes désagréables et de mauvais goût. Au début, Ivan Ilitch espéra échapper à tous ses ennuis en prenant la vie comme auparavant par son côté léger et agréable. Il essayait de ne pas voir la mauvaise humeur de sa femme. Il invitait chez lui ses collègues, organisait des parties de cartes ou passait ses soirées au cercle ou chez les amis. Mais un jour, sa femme le prit à partie avec une telle violence et si grossièrement. Elle répéta ensuite la même scène avec tant d'acharnement chaque fois qu'il refusait de se soumettre à sa volonté, qu'il en fut épouvanté. Elle était évidemment résolue à persister jusqu'à ce qu'il consentît à rester avec elle à la maison et à partager son ennui. Il comprit que la vie de famille, du moins avec sa femme, loin d'ajouter au charme, à l'harmonie de l'existence, ne faisait au contraire qu'y apporter du trouble. Et Ivan Ilitch songea au moyen de se soustraire à cette tyrannie. Ses occupations étaient la seule chose qui inspirait du respect à Praskovya Fedorovna. Ivan Ilitch prétexta ses fonctions pour lutter contre sa femme et se créer un monde à soi. Après la naissance de l'enfant, les tentatives infructueuses d'allaitement, d'autres soucis encore, les maladies réelles et imaginaires de l'enfant et de la mère, réclamèrent l'intervention d'Ivan Ilitch, bien qu'il n'y pût rien. La nécessité de se créer une existence à part lui parut plus impérieuse encore. À mesure que sa femme devenait plus irritable et plus exigeante, Ivan Ilitch reportait de plus en plus sur son service tout l'intérêt de sa vie. Il s'attacha davantage aux soins de sa carrière et devint de plus en plus ambitieux. Une année à peine après son mariage, il comprit que la vie de famille, tout en présentant quelques avantages, était cependant une chose très compliquée et très pénible, et que, pour mener une vie convenable, approuvée par la société, il fallait une règle dans le mariage comme dans le service. Cette règle, Ivan Ilitch l'institua dans ses rapports avec sa femme. Il exigea d'elle d'être une bonne maîtresse de maison, de veiller à ce que le lit et le dîner soient bien soignés, et surtout de respecter les convenances imposées par l'opinion publique. D'ailleurs, s'il se montrait de bonne composition, il l'accueillait avec reconnaissance. Au contraire, s'il avait à se plaindre de son humeur, il se réfugiait bien vite dans ses occupations professionnelles, où il trouvait de l'agrément. Ivan Ilitch était considéré comme un bon magistrat. Au bout de 3 ans, il fut nommé substitut du procureur. Ses nouvelles attributions, leur importance, le pouvoir de requérir et de jeter en prison, les discours en public, son succès, tout cela l'attacha davantage à son service. Il eut d'autres enfants. Sa femme devenait de plus en plus acariâtre et méchante, mais les règles qu'avait établies chez lui Ivan Ilitch le rendaient presque invulnérable. Après 7 ans de séjour dans la même ville, il fut nommé procureur dans une autre province. Toute la famille s'y rendit. Ils avaient peu d'argent et ce nouveau poste ne plaisait pas à sa femme. Le traitement était plus élevé, mais la vie était bien plus chère. En outre, ils perdirent 2 enfants et la vie familiale devint pour Ivan Ilitch encore plus insupportable. Praskovya Fedorovna accusait son mari de tous les malheurs survenus dans leur nouvelle résidence. Presque toutes les conversations entre les deux époux, surtout quand il s'agissait de l'éducation des enfants, ravivaient le souvenir des querelles anciennes et en provoquaient de nouvelles. À de rares intervalles, l'amour se réveillait pour peu de temps. C'était des îlots où il se reposait un moment, puis ils étaient de nouveau emportés dans un océan de haine latente qui se manifestait par leur éloignement mutuel. Cet éloignement aurait attristé Ivan Ilitch s'il avait pensé qu'il en pouvait être autrement, mais il trouvait cela tout à fait normal et il en faisait le but de son existence familiale. Ce but, était de se débarrasser de plus en plus de ses désagréments, de leur donner un caractère inoffensif et convenable. Il y parvenait en consacrant aux siens le moins de temps possible, et quand il se trouvait obligé de rester avec eux, il s'entourait d'étrangers. Mais son grand refus, c'était son service. Dans les obligations de sa charge, il concentrait tout l'intérêt de son existence, et cet intérêt l'absorbait. La conscience qu'il avait de pouvoir perdre qui bon lui semblerait, sa propre indépendance et importance qui se manifestaient au tribunal où il rencontrait ses subordonnés, ses succès devant ses chefs et ses subordonnés, et surtout sa maîtrise dans les affaires, enfin les conversations entre collègues, les dîners en ville, le whist, tout cela lui plaisait et remplissait sa vie. Ainsi, Ivan Ilitch jugeait que sa vie se passait comme il convient, qu'elle était agréable et bien séante. Sept années s'écoulèrent de la sorte. La fille, l'aînée, était dans sa 16e année. Ils perdirent un autre enfant. Il leur restait encore un garçon, un collégien, objet de leur discussion. Ivan Ilitch voulait qu'il fît ses études à l'école de droit. Praskovy Fedorovna, par esprit de contradiction, l'envoya au collège. La fille élevée à la maison étudiait avec zèle. Le garçon aussi travaillait bien. Chapitre 3. Ivan Ilitch vécut ainsi durant 17 années de mariage. Il était déjà l'un des plus anciens procureurs et avait refusé plusieurs fois son changement pour attendre un poste plus important, lorsque, tout à coup, survint un incident désagréable qui faillit troubler tout à fait son repos. Il espérait être nommé président du tribunal dans une ville universitaire, lorsque Hoppe, on ne sait comment, lui fut préféré. Ivan Ilitch s'en irrita et fit des reproches à son heureux rival. Il se brouilla avec ses chefs, qui lui gardaient rancune, si bien qu'à la promotion suivante, il ne fut pas nommé. C'était en 1880. Ce fut l'année la plus pénible de la vie d'Ivan Ilitch. Cette année, il s'aperçut d'une part que ses appointements ne suffisaient plus à leur vie, d'autre part que tout le monde l'oubliait et que ce qu'il considérait comme une injustice criante semblait aux autres la chose la plus naturelle. Son père même ne se croyait pas obligé de lui venir en aide. Il se sentit abandonné de tous ceux qui semblaient croire qu'une situation de 3 500 roubles d'appointement était normale et même brillante. Au contraire, en pensant à toutes les injustices dont il était victime, aux scènes éternelles avec sa femme, aux dettes qu'entraînait une vie trop large, il trouvait lui que sa situation était loin d'être normale. Pour faire des économies, l'été, il prit un congé et alla vivre avec sa famille à la campagne, chez le frère de sa femme. Là, dans l'oisiveté, Ivan Ilitch, pour la première fois, ressentit non seulement de l'ennui, mais une angoisse intolérable. Il décida qu'on ne pouvait continuer à vivre de la sorte, et que des mesures énergiques s'imposaient. Après une nuit d'insomnie qu'il passa à se promener sur la terrasse, il résolut de se rendre à Pétersbourg, de faire des démarches et, pour punir ceux qui n'avaient pas su l'apprécier, de passer dans un autre ministère. Le jour suivant, malgré les objections de sa femme et de son beau-frère, il partit pour Pétersbourg. En partant, il avait seulement l'intention d'obtenir une place de 5 000 roubles. Les fonctions qu'il aurait à remplir au ministère lui importaient peu. Il ne voulait qu'une place, une place de 5 000 roubles, soit dans les bureaux, soit dans les banques, soit dans les chemins de fer, soit dans les institutions de l'impératrice Marie, soit dans les douanes, pourvu qu'il touchât les 5 000 roubles et qu'il quittât un ministère où on n'avait pas su l'apprécier. Le voyage d'Ivan Ilitch fut couronné d'un succès étonnant et inattendu. À Koursk, un de ses amis, Ilin, monta dans le compartiment de première classe qu'il occupait et lui communiqua un télégramme que venait de recevoir le gouverneur de Koursk. On lui annonçait qu'un grand remaniement allait avoir lieu d'ici quelques jours dans le ministère. Ivan Semyonovitch serait nommé à la place de Piotr Ivanovitch. Outre l'influence que ce changement pouvait avoir pour la Russie, il avait une importance particulière pour Ivan Ilitch. En effet, un nouveau personnage, Piotr Ivanovitch, arrivait au pouvoir, et il protégerait sûrement son ami Sakhar Ivanovitch, dont Ivan Ilitch était également l'ami. La nouvelle lui fut confirmée à Moscou. Arrivé à Pétersbourg, Ivan Ilitch se rendit chez Sakhar Ivanovitch, qui lui promit une nomination dans le même ministère. Une semaine plus tard, il télégraphiait à sa femme, « Sakhar nommé place Miller, à premier rapport reçoit nomination ». Grâce à ces nouveaux personnages, Ivan Ilitch reçut une nomination qu'il éleva de 2 grades au-dessus de ses anciens collègues, 5 000 roubles d'appointement et 3 500 roubles pour ses frais de déplacement. Oubliant tout son dépit contre ses anciens ennemis et son ministère, Ivan Ilitch était pleinement heureux. Il revint à la campagne, gai et dispo comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. Praskovie Féodorovna se montra également joyeuse et la paix fut rétablie entre eux. Ivan Ilitch racontait comment on l'avait fêté à Pétersbourg, comment ses ennemis étaient confus et recherchaient maintenant ses bonnes grâces, leur jalousie et surtout à quel point il était maintenant aimé de tout le monde à Pétersbourg. Praskovie Féodorovna l'écoutait, feignait de tout croire, ne le contredisait en rien et se contentait de former des projets pour leur installation dans la ville qu'ils allaient désormais habiter. Ivan Ilitch vit avec joie que les projets de sa femme étaient conformes aux siens, que l'harmonie revenait dans sa famille et qu'il pourrait recommencer à mener une vie agréable et décente. Il n'était revenu à la campagne que pour peu de temps. Il devait prendre possession de son nouveau poste le 10 septembre, et en outre il lui fallait le temps de déménager, de faire des achats et des commandes, afin de s'installer comme il en avait conçu le projet, et comme c'était presque décidé aussi dans l'esprit de Praskovie Féodorovna. Maintenant que tout était si bien arrangé, qu'il s'entendait si bien avec sa femme, maintenant surtout qu'il se voyait rarement, leur rapport devint d'une cordialité qu'ils n'avaient pas connue depuis leur mariage. Ivan Ilitch avait eu d'abord l'intention d'emmener tout de suite sa famille avec lui, mais sa belle-sœur et son beau-frère insistèrent tellement et devinrent subitement si aimables pour Ivan Ilitch et sa famille qu'il partit seul. Il partit donc, et la bonne humeur qui lui venait de son succès et de l'accord avec sa femme ne le quitta plus. Il trouva un appartement charmant, juste comme il l'avait rêvé tous les deux, avec des pièces vastes et hautes, dans le style ancien, un cabinet de travail commode et imposant, des chambres pour sa femme et sa fille, une salle d'études pour son fils. Tout y était distribué comme exprès pour eux. Ivan Ilitch s'occupa lui-même de l'installation. Il choisit les papiers, acheta les meubles, surtout des meubles anciens, d'aspect cossu, et peu à peu l'ensemble s'approcha de l'idéal qu'il avait imaginé. Quand il fut à moitié installé, le résultat obtenu dépassa tout ce qu'il avait espéré. Tout de suite, il se rendit compte de l'aspect distingué, élégant, comme il faut, qu'aurait l'appartement quand tout serait terminé. En s'endormant, il songeait à son salon. Quand il regardait le salon de réception encore à moitié installé, il voyait déjà en place la cheminée, l'écran, la petite étagère et les petites chaises disposées çà et là, les faïences appendues au mur et les bronzes en place. Il se réjouissait en pensant à la surprise de Praskovy et de Lise, qui elles aussi aimaient ces choses. Certains meubles, surtout, qu'il avait eu la chance d'acquérir à bon compte, donnaient à l'appartement un cachet particulier de noblesse. Dans ses lettres, il veillait à rester au-dessous de la réalité, afin que la surprise fût plus grande. Ses soins l'absorbaient toujours tellement que même ses nouvelles fonctions, qu'il aimait pourtant, l'intéressaient moins qu'il ne se l'était figuré. Pendant les audiences, il était souvent distrait et se demandait quel ornement, droit ou cintré, il mettrait à ses rideaux. Il en était si préoccupé que souvent, il déplaçait lui-même les meubles ou posait les tentures. Un jour, en montant sur une échelle pour expliquer au tapissier qui ne comprenait pas comment il voulait draper les rideaux, il fit un faux pas et tomba. Mais comme il était adroit et vigoureux, il se retint et se cogna seulement le côté à l'espagnolette. Il en souffrit pendant quelques jours, puis la douleur disparut. D'ailleurs, il se sentait tout ce temps particulièrement gai et bien portant. Il écrivait au sien « Je me sens rajeuni de 15 ans ». Il comptait terminer l'installation en septembre, mais les choses traînèrent jusqu'à la mi-octobre. En revanche, tout était parfait, et ce n'était pas seulement son avis, mais celui de tout le monde. En réalité, l'appartement était comme ceux de toutes les personnes qui, sans être riches, veulent ressembler aux riches, ce qui fait qu'ils se ressemblent qu'entre eux. Des tentures, de l'ébène, des fleurs, des tapis, des bronzes, d'une tonalité tantôt sombre, tantôt brillante, tout ce que des gens d'une certaine classe emploient pour ressembler à des gens d'une certaine classe. Chez lui, cette ressemblance était si parfaitement atteinte que rien ne méritait une attention particulière, quoique tout lui parût original. Lorsqu'il fit entrer sa famille dans l'antichambre illuminée et pleine de fleurs, et qu'un laquais en cravate blanche les introduisit dans le salon et le cabinet, tout rayonnant de plaisir, il savoura leurs éloges. Le soir même, pendant le thé, Praskovy Fedorovna lui demanda au cours de la conversation comment il était tombé. Il se mit à rire et mima la scène de la chute et l'effroi du tapissier. Oh, je suis pas en vain un bon gymnaste. Un autre se serait tué sur le coup. Je me suis simplement heurté ici. Oh, quand je touche, ça me fait mal, mais ça passera, ce n'est qu'un bleu. Et l'on vécut dans le nouvel appartement. Comme toujours, au bout d'un certain temps, on s'aperçut qu'il manquait une pièce et que les nouveaux appointements étaient insuffisants. 500 roubles de plus et tout eût été parfait. Au début, surtout, tant qu'il resta quelques petits arrangements à faire, tout alla bien. Il fallait acheter une chose, déplacer ou ajouter un meuble. Malgré quelques légers dissentiments entre les époux, ils étaient si contents, ils avaient tant à faire, que tout s'arrangeait sans grande querelle. Lorsque tout fut complètement terminé, ils commencèrent à s'ennuyer un peu. Quelque chose leur manquait. Alors les nouvelles relations, les nouvelles habitudes vinrent remplir leur existence. Ivan Ilitch rentrait dîner après sa matinée passée au tribunal, et les premiers temps il était toujours d'excellente humeur, quoiqu'il fût souvent contrarié au sujet de l'appartement. Il suffisait d'une tache sur un tapis ou sur les tentures, d'un cordon de rideau cassé pour l'irriter. Tout cela lui avait coûté tant de peine que la moindre chose l'agaçait. Mais en général, sa vie s'annonçait agréable, facile et convenable, précisément comme il le souhaitait. Il se levait à 9 heures, prenait son café, lisait son journal, et après avoir endossé son uniforme, il se rendait au tribunal. Habitué à ce joug, il s'y pliait sans effort, et tout marchait comme sur des roulettes. Les solliciteurs, les requêtes, les renseignements à fournir, le travail de la chancellerie, les séances publiques, et les conférences administratives. Il fallait savoir écarter les préoccupations de la vie vraie qui troublent toujours la régularité du service. Il fallait avoir avec le public uniquement des rapports de service. Les motifs de ces rapports et ces rapports eux-mêmes devaient se rattacher exclusivement au service. Un monsieur vient, par exemple, demander un renseignement. Si ce renseignement ne concerne que l'homme privé, Ivan Ilitch ne se croit pas tenu de le donner. Mais s'agit-il de quelque chose qui doit être écrit sur papier en tête, alors Ivan Ilitch fera tout ce qu'il pourra avec toute la courtoisie et l'amabilité possible. Ceci fait-il passe à toute autre chose. Ivan Ilitch possédait au plus haut degré le talent d'établir une ligne de démarcation entre le service et sa vie privée. Cependant, il prenait plaisir à les confondre, ce que lui permettait sa longue pratique et son habileté consommée. Il déployait à ce jeu, tout en restant correct, non seulement de l'aisance, mais une véritable virtuosité. Dans ses moments de loisir, il fumait, prenait le thé, parlait politique, affaires publiques, cartes et surtout promotion. Un peu las, fier comme un premier violon qui vient d'exécuter en virtuose sa partie d'orchestre, il rentrait chez lui. La mère et la fille recevaient du monde ou étaient en visite, le fils était au collège ou préparait à la maison ses devoirs avec des répétiteurs. Il travaillait très bien. Tout allait à souhait. Après dîner, s'il n'y avait pas de monde, Ivan Ilitch lisait le livre dont on parlait, et le soir, il se mettait à ses affaires, c'est-à-dire qu'il dépouillait les dossiers, compulsait le code, comparait les dépositions, cherchait la loi à appliquer. Il ne trouvait à ce travail ni ennui ni plaisir. Il eût certes préféré jouer aux cartes, mais à défaut de cartes, mieux valait s'occuper de la sorte que de rester oisif ou en tête-à-tête avec sa femme. Un des plaisirs d'Ivan Ilitch, c'était les petits dîners qu'il offrait à quelques personnages importants. Ces réunions rappelaient les distractions de tous les gens de son milieu, comme son salon rappelait les leurs. Une fois même, il donna une vraie soirée. On dansa. Ivan Ilitch était ravi, et la joie eût été parfaite sans une brouille qui survint à propos des gâteaux et des bonbons. Praskovi Fedorovna avait son idée, mais Ivan Ilitch insista pour prendre tout chez un confiseur très cher. Il commanda beaucoup de gâteaux qui restèrent, et la note se montait à 45 roubles. La dispute fut vive et désagréable. Praskovi Fedorovna traita son mari d'imbécile. Lui se prit la tête à deux mains, et sous le coup de l'irritation, il prononça le mot de divorce. La soirée, néanmoins, fut des plus réussies. La meilleure société s'y pressait, et Ivan Ilitch dansa avec la princesse Trufanov, sœur de la fondatrice bien connue de la société « Emporte mon chagrin ». L'exercice de sa charge lui procurait des satisfactions d'amour-propre. La fréquentation de la bonne société lui donnait celle de la vanité, mais ses vraies joies, il les devait aux cartes. Il avouait que, quelque ennui qu'il pût avoir, il goûtait une joie suprême à s'attabler avec de bons joueurs et des partenaires sérieux devant un whist à quatre, exactement à quatre, à cinq c'est beaucoup moins amusant, quoi qu'on le dise par politesse, à jouer à un jeu serré et intelligent, quand on est en veine, à souper ensuite et boire un verre de vin. Après le whist, surtout quand il s'en tirait avec un petit gain, ou trop gagné et désagréable, Ivan Ilitch se mettait au lit dans une disposition d'humeur particulièrement heureuse. C'est ainsi qu'il vivait. Leur société était des mieux choisies, des personnages importants et de jeunes gens venaient chez eux. Le père, la mère, la fille étaient tout à fait d'accord sur le choix de leur relation et tous trois, sans se donner le mot, s'entendaient pour éloigner d'eux tous les parents et les amis pauvres qui, pleins d'empressement et de tendresse, venaient les voir dans leur salon orné de poteries japonaises. Bientôt, ces petites gens cessèrent de venir et les Golovine ne reçurent plus qu'une société choisie. Les jeunes gens faisaient la cour à Lise. L'un d'eux, Pertitchev, juge d'instruction, fils de Dimitri Ivanovitch Pertitchev et l'unique héritier de sa fortune, se mit à la courtiser si sérieusement qu'Ivan Ilitch demanda à sa femme s'il ne conviendrait pas d'organiser des promenades en troïka ou un spectacle de société. Ainsi vivait-il. Tout marchait régulièrement et tout allait fort bien.